Qu'est-ce qui motive tout le monde dans ce chapitre? Le mot revient souvent, c'est la bénédiction. Nous en avons déjà parlé la semaine dernière. C'est cette chose que le livre de la Genèse appelle la bénédiction. Tout le monde le veut. Alors pour beaucoup, la bénédiction, ça évoque quelque chose de spirituel, de religieux, parce qu'on parle souvent de la bénédiction de Dieu. Mais vous pouvez remarquer que pour l'instant ici, personne n'est particulièrement intéressé par la bénédiction de Dieu. Les uns et les autres ont une démarche pas très spirituelle à travers tout ce chapitre. Et ils recherchent une bénédiction selon ce qu'ils conçoivent être la bénédiction. À l'époque, l'idée de la bénédiction était très liée à sa place dans la famille, et notamment par l'héritage qu'on recevait. À l'époque, l'héritage n'était pas divisé en parts égaux parmi les enfants, mais revenait grandement à l'aîné pour préserver le patrimoine familial. Alors, quand il parlait de la bénédiction, quand tout le monde recherchait cette bénédiction, notamment Jacob et Ésaü, ils avaient en tête la réussite. Ils avaient en tête l'approbation de la société, le standing aux yeux de tout le monde. Alors c'est vrai qu'en Occident, à notre époque, on fonctionne moins avec le droit d'aînesse et cette notion-là de bénédiction. Mais nous avons nos manières de définir et d'accorder la réussite, d'accorder la bénédiction. Alors, en cela, ce chapitre décrit donc bien le projet de l'homme moderne aussi, comme à l'époque. Et nous avons un bon aperçu ici des manières et des méthodes que les gens cherchent pour obtenir cette bénédiction, pour réussir dans la vie, pour être heureux, pour régler leurs problèmes. Et ce matin, j'aimerais voir ces méthodes et ces manières que les uns et les autres ont employées pour être bénis, pour accorder la bénédiction. Nous allons voir tout d'abord la méthode sensuelle, ensuite la méthode magouille, et enfin la foi que la Bible veut nous enseigner. Tout d'abord, la méthode sensuelle. En fait, ce texte, si vous avez écouté la lecture, ce texte fait travailler tous les sens, c'est-à-dire le goût, l'ouïe, la vision, le toucher et l'odorat. Et quand je parle de la méthode sensuelle, je reviens au sens propre du mot sensuel, c'est-à-dire un attachement au sens, au plaisir que donnent les sens. Et à travers ce chapitre, beaucoup de décisions sont prises uniquement sur la base des sens. Et on voit ça surtout dans la personne d'Isaac et Ésaü aussi un peu. Mais tout le monde finalement suit ou prend des décisions sur la base des sens. Alors, ça commence avec déjà le premier verset, la vision d'Isaac, la vision affaiblie, il voit plus très bien. Ensuite, en verset 4, il dit « Fais-moi un mets que j'aime ». Et cette phrase revient souvent, un mets que j'aime. Ce n'est pas juste « Fais-moi un plat », c'est « Fais-moi un bon petit plat mijoté comme j'aime beaucoup ». Et il semble que Isaac, il avait une faiblesse pour ce mets ou ce plat, il aimait beaucoup. Après, il y a Rebecca qui est là et qui écoute, qui entend tout ça avec Louis. Et elle panique de ce qu'elle entend et elle va commencer aussi à mettre en place son projet. Ensuite, en verset 22, vous avez la voix de Jacob. Hein, il voit plus très bien et donc il entend, mais il dit ça me semble pas la voix d'Ésaü. Donc, ça aussi Louis. Et puis le toucher. Il va devoir, en verset 27, il va toucher son fils. Et là, ça va lui confirmer que c'est bien Ésaü. Il pense que c'est Ésaü parce qu'il sent les poils. Et enfin, ce qui confirme tout ça, c'est l'odeur. L'odeur de ses vêtements, il reconnaît son fils Ésaü. Donc, vous avez tous les cinq sens qui entrent en jeu ici dans ce texte. Mais, visiblement, le commentaire qu'apporte l'auteur, Moïse, ici, c'est que Isaac, malheureusement, il se laisse guider uniquement par ses sens physiques, ses sens charnels, on va dire, et ça va lui causer, il va se tromper. La méthode sensuelle n'est pas toujours une démarche fiable pour diriger nos vies, pour obtenir la réussite, la bénédiction que nous cherchons. C'est sûr que Dieu les a créés, nos sens physiques, et Dieu a aussi créé les plaisirs qui correspondent à ces sens, et nous pouvons lui remercier, mais ils ne sont pas toujours infaillibles. Vous savez, les chrétiens, nous disons souvent que nous croyons à l'inhérence et l'infaillibilité des Écritures. Eh bien, nous vivons, et c'est pour ça que ce texte est parlant pertinent pour nous aujourd'hui, nous vivons dans une culture qui croit à l'inhérence et l'infaillibilité de nos sens. Des sens physiques, des envies physiques, des désirs. Et c'est ce qu'on nous dit constamment. Si tu as envie, si ça te fait plaisir, si ça te paraît bon, si ça sent bon, vas-y. Dirige-toi d'après tes sens. Suis la voie, la méthode sensuelle. Et nous avons poussé les choses tellement loin que la sensualité est devenue la voie suprême du bonheur, et avec les connotations même sexuelles que nous avons aujourd'hui. Mais j'aimerais suggérer que la méthode sensuelle qui apparaît dans ce texte n'est pas toujours une méthode fiable pour trouver la voie de la réussite, la voie de la bénédiction. Pourquoi ce n'est pas une voie fiable? Eh bien, c'est évident ici que nos sens sont parfois limités et ne captent pas toujours la vérité, la volonté de Dieu. C'est le cas d'Isaac. Déjà, sa vision était affaiblie. Donc, il ne va pas pouvoir s'appuyer toujours sur ce qu'il voit. Et même sans être vieux nous-mêmes, parfois on ne va pas prendre toutes nos décisions sur ce que nous voyons par nos yeux physiques. La Bible dit « Nous ne marchons pas par la vue, nous devons marcher par la foi. » Et c'est clair qu'ici les sens peuvent se tromper, sa vision se trompe un peu. Et les sens peuvent aussi être manipulés. Les médias savent bien faire cela. La Bible, le Nouveau Testament parle souvent des désirs trompeurs de la chair. Donc toujours écouter nos sens, parfois ils ne sont pas infaillibles, comme c'était clairement le cas chez Isaac. Aussi, les sens peuvent se contredire. Isaac, il entend une chose et puis il sent une autre chose. Et donc là, il a une contradiction entre ce qu'il entend et ce qu'il touche. Et dans ce cas-là, quel sens suivre? Et donc, si nous marchons uniquement par nos sens physiques, par la vue physique, même ça va... Entre nous, on est des êtres complexes, et à l'intérieur de nous, il peut y avoir des voies différentes, des désirs contradictoires, et ça va être difficile de faire le tri si on se base uniquement sur nos sens. Le message de notre monde, souvent, c'est « Écoute ton cœur, fais ce que dit ton cœur. Hein? Écoute ton cœur, suis ton cœur, fais ce que dit ton cœur. » Mais vous connaissez votre propre cœur, je connais mon cœur. Est-ce que c'est un bon conseil? Écoute ton cœur, fais ce que dit ton cœur. La Bible dit d'ailleurs, ça c'est le prophète Jérémie qui dit que le cœur humain, ton cœur, est trompeur, ton cœur est tortueux. Et il est malade, il est faible, il est fragile. Qui peut le comprendre? Ton cœur est trompeur. D'ailleurs, le mot trompeur, c'est le même mot Jacob, comme nous allons voir dans quelques instants. Ton cœur est Jacob, ton cœur est trompeur. Il t'envoie un ensemble de messages parfois contradictoires. Alors, écoute ton cœur, suis ton cœur, ça va être difficile à faire. Il nous faut quelque chose en dehors de nous-mêmes qui puisse nous tracer la voie et qui puisse nous révéler le chemin à suivre. Et ça, nous l'avons dans la personne de Dieu. Il s'est révélé, il nous a donné sa parole. Et cette parole est plus fiable comme guide que juste nos sens. Mais Isaac, il avait déjà reçu la parole de Dieu. Il avait déjà reçu la révélation que ce sera Jacob qui allait hériter de la bénédiction et la lignée promise. Et ça, alors que sa vision est affaublie, il aurait pu déjà avancer avec cette parole, cette révélation de la part de Dieu. Mais ce jour-là, son ventre ou ses désirs de père, ses désirs physiques, charnels de père. Il avait une préférence pour Ésaü. Ce jour-là, son ventre parla plus fort que ce qu'il connaissait de la volonté de Dieu. Et combien ça nous arrive aussi, c'est nos corps, notre chair, la Bible a dit, qui parle plus fort parfois que la volonté de Dieu. On connaît la volonté de Dieu, mais la chair veut nous conduire autrement. Mais ça nous conduit vers des problèmes, comme pour le cas d'Isaac. Alors posons-nous la question ce matin, quelles sont les choses aujourd'hui où nous laissons nos sens, nos impressions dicter nos choix? Parfois, il faut remettre en cause nos sens. Ils sont faillibles. Ils ne sont pas inhérents comme la parole de Dieu. Je pense qu'une église peut le faire si on regarde simplement à la taille du bâtiment ou des choses visibles. Ou bien, dans les couloirs, on entend quelque chose. J'ai entendu que quelqu'un aurait dit à mon sujet et donc, peut-être il ne faut pas baser son regard, sa pensée envers son frère, sa sœur dans la foi par un oui-dieu. Un couple peut le faire si je recherche uniquement mon confort, si je vais travailler juste mes sens physiques, mon corps, ma chair, et je ne veux pas me donner, me sacrifier pour l'autre. Si mon attitude c'est toujours « fais-moi un repas comme j'aime, fais-moi un câlin comme j'aime, fais-moi une vie comme j'aime », et si tu ne me fais pas ces choses, eh bien, je retiens la bénédiction, je boude. Vous voyez, ce n'est pas une manière fiable de vivre. Méfiez-vous de la méthode purement sensuelle, les sens, pour vous conduire et vous apporter le bonheur et la bénédiction dans la vie. C'est un des premiers messages de ce passage. Après, il y a la méthode magouille. Si la méthode sensuelle concerne surtout Isaac, il montre une certaine faiblesse chez Isaac, en tout cas vers la fin de sa vie. Et Ésaü aussi, qui avait déjà, on a vu, troqué son droit d'aînesse pour un plat de lentilles. Là encore, il a fait travailler la méthode sensuelle, pensant que le plat de lentilles pouvait lui apporter plus de bénédiction et de réussite de bénédiction que le droit d'aînesse. Eh bien, si la méthode sensuelle concerne Isaac et Ésaü, la méthode magouille concerne surtout Jacob et sa mère. Et ce que le mot Jacob veut dire, au fond, Jacob, littéralement, c'est celui qui tient le talon, qui attrape le talon. Ça donne l'expression aussi, nous, faire un croche-pied, c'est-à-dire on accroche le pied de l'autre pour le faire chuter. Et ça, c'est Jacob. Ici, il manifeste, il vit son nom, il est menteur, il est fraudeur, il est magouilleur, et c'est tout un commentaire sur sa vie et sa manière de vivre et sa manière de penser obtenir la bénédiction. Il se déguise, il ment, il fait croire qu'il est quelqu'un d'autre, il joue la comédie, il porte un masque, il est rusé, il a toujours un coup d'avance sur son frère. Il a un langage pieux qui est complètement faux. On a vu ça en verset 20. Et son père demande, mais comment se fait-il que tu es revenu si vite de la chasse? Et il dit, c'est que l'Éternel, ton Dieu, te l'a fait devenir devant moi. Il invoque Dieu. Donc un langage pieux qui est complètement faux. Ça, c'est Jacob. Ça, c'est la méthode magouille pour obtenir la bénédiction. Mentir, faire croire qu'on est quelqu'un d'autre, jouer la comédie, porter un masque, manipuler les autres. Et vraiment, vous reconnaissez ici la méthode du monde pour faire fonctionner beaucoup de choses dans le quotidien. J'ai trouvé même la richesse du vocabulaire français impressionnante pour décrire la méthode Jacob. Tromperie, perfidie, fourberie, duperie, hypocrisie, escroquerie, tricherie, flatterie, supercherie. Pourquoi on a un vocabulaire si riche pour décrire des actions si répandues finalement? Pourquoi tant de fraude et de magouilles dans le monde politique, dans le monde professionnel, dans le monde sportif, partout? Nous voyons la méthode de Jacob. Pourquoi? Parce que tout le monde cherche la bénédiction, tout le monde cherche le bonheur et on pense que c'est comme ça qu'il faut l'avoir. Alors parfois on associe ça chez les païens, chez les incultes, mais la méthode Magui est aussi celle que les religions finissent par inculquer à leurs fidèles. Parce que là encore, les religions inculquent cette démarche envers Dieu. Il faut manœuvrer pour obtenir la bénédiction de Dieu. Il faut se déguiser comme un saint, alors qu'on ne l'est pas au fond du cœur. C'est l'habit qui fait le moine. Il faut avoir un langage pieux, mais derrière, ne pas refléter dans les pensées. Et puis, il faut se réjouir de la chute des autres. Il faut même tendre des croche-pieds, des pierres d'achoppement pour que d'autres chutent, pour que ça nous mette, nous, en bonne lumière, comme les pharisiens vivaient souvent. Tout ça pour obtenir la faveur de Dieu. Donc, vous voyez, la méthode Magui, c'est même très ancré dans les religions, tout comme dans le monde sans Dieu. Pourquoi cette méthode n'est pas à suivre? On pourrait y donner beaucoup de raisons. Quelqu'un pourrait dire, mais regarde, ça a quand même marché. Hein, ça a quand même marché, Jacob a eu la bénédiction. Alors, et dans le monde d'aujourd'hui, on a l'impression parfois ça marche mieux que toute autre méthode de mentir, tromper, vivre hypocrite. Beaucoup semblent constater que ça marche mieux que d'autres méthodes. Mais cette méthode est à rejeter. Et une raison, je peux vous donner, qui apparaît clairement dans notre texte, c'est que cette méthode détruit les relations, détruit la paix et l'unité au sein d'une famille, au sein d'une société, au sein d'une église, au sein d'un monde. Ce qui est triste dans cette histoire, c'est que cette famille fonctionne mal, et c'est à cause de cette méthode. On ne les voit jamais ensemble, hein. Il y a plusieurs scènes dans ce chapitre, et jamais il y a toute la famille ensemble. Déjà, peut-être ils ne s'entendent pas très bien. Mais on peut constater que par la suite, Jacob n'a jamais revu sa mère, il a dû fuir. Jacob et Ésaü n'ont jamais eu des relations fraternelles saines. Ils se sont un peu revus, mais ils n'étaient jamais d'amis, des frères, des vrais frères. Et je me dis que dans le couple, Isaac et Rebecca, ce n'est pas sûr qu'ils ont retrouvé une confiance mutuelle quand Jacob sait que sa femme est là pour aussi le... Isaac pense que sa femme est aussi là pour le tromper et profiter de son état aveugle. Donc, la méthode Magui pourrit les relations. Et c'est dramatique, c'est triste, et c'est à rejeter. Donc, il reste une méthode qui n'est pas une méthode vraiment, c'est la foi, que toute la Bible veut nous inculquer. C'est la foi qui obtient la véritable bénédiction de Dieu. Cette foi, on a du mal à le trouver dans ce chapitre. Parce que personne semble vraiment agir par foi et amour pour Dieu et pour son prochain. Ni Isaac, ni Ésaü, ni Rebecca, ni Jacob. Rebecca et Jacob pourraient dire, oh, mais nous avons raison. Dieu a dit que ça va être comme ça. Mais ce n'est pas une démarche de foi, c'est une démarche magouille qu'ils ont. Il va falloir des années pour Jacob pour apprendre enfin d'où vient la vraie bénédiction, comment la voir. Ça, on le verra par la suite. Néanmoins, il semble qu'Isaac, quand même, a fini par accepter la volonté de Dieu et agir par la foi. Nous avons ce résumé dans le Nouveau Testament, Hébreux 11, verset 20, qui dit, en parlant de cet instant, Hébreux 11, 20, « C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. » C'est par la foi qu'Isaac bénit Jacob et Ésaü en vue des choses à venir. Un commentaire intéressant quand on lit Genèse 27. où est cette foi en vue des choses à venir? Pourquoi Isaac voulait bénir surtout Ésaü? Bon, c'était la tradition de l'époque, c'était toujours l'aîné, c'est comme ça que fonctionnait le monde et les valeurs du monde, c'était l'aîné qui héritait la bénédiction. Et puis je pense que Isaac avait, voilà, et on a déjà appris qu'il avait une préférence pour Ésaü parce que Ésaü c'était un chasseur, il chassait du gibier. Et là aussi, à cette époque, c'était ça qui montrait la force et la puissance, c'était pouvoir chasser du gibier. Alors Ésaü, quand le père voit ses deux fils, l'un qui est chasseur, qui est fort, qui est puissant, l'autre qui reste un peu dans les tentes avec sa mère, forcément il préfère Ésaü, parce que c'est comme ça que fonctionnaient les valeurs de ce monde, et la bénédiction, il cherche encore la bénédiction dans les valeurs de ce monde. Mais, à un moment, Isaac doit se rendre compte que malgré, lui, il savait que Jacob allait bénir, Dieu lui avait dit lors de la naissance. Et peut-être, une fois qu'il prononce la bénédiction et qu'il comprend que c'est Jacob, il est obligé de se dire, malgré tous mes efforts, malgré mes désirs, c'est quand même la volonté de Dieu qui s'est accomplie. Et la force, la puissance, la sécurité ne vient pas forcément de la chasse ou des valeurs de ce monde, mais c'est Dieu qui dirige quand même ma vie. Et le verset dit que c'est par la foi qu'il les a bénis en vue des choses à venir. C'est quoi les choses à venir? Bien, dans le contexte de ce livre Genèse et puis toute la Bible, les choses à venir, c'est le plan de Dieu qui va venir, notamment l'arrivée un jour de l'Évangile, de Jésus, du Messie promis et du royaume qui allait instaurer. Donc, quand on lit les paroles de la bénédiction d'Isaac, que Dieu te donne la rosée du ciel, la graisse de la terre, tout ça, il y a une bénédiction de richesse. Que des peuples te soient soumis, que des nations se prosternent devant toi, ça le maître de tes frères. Quelque part, il faut comprendre que Isaac aussi avait des choses à venir en vue, et qu'il avait en tête une patrie céleste, qu'il avait en tête le jour où un jour vraiment la bénédiction allait être accomplie par ce descendant qui était Jésus. Et lorsque Jésus est arrivé dans notre monde, pareil, beaucoup n'ont pas pensé que la bénédiction puisse venir de lui, que voilà, la réussite de nos vies puisse venir de lui, parce qu'ils se sont fiés uniquement à leur sens, à la méthode sensuelle. Qu'ils ont regardé Jésus de leurs yeux physiques, ils n'ont rien vu d'impressionnant. Quand ils ont écouté son enseignement, ça les gênait. Ils ne voulaient pas venir à la lumière. Ils ont dit, lui, ça ne frappe pas nos regards. Avec Jésus, donc, ils ont magouillé aussi, ils ont menti, ils ont manipulé pour que Jésus soit condamné, écarté. Parce que Jésus ne correspondait pas à la bénédiction, la force, la valeur qu'ils recherchaient. Mais malgré toutes leurs manœuvres, comme on a lu ce matin, malgré Ponce Pilate et tout ce procès, ce faux procès, malgré toutes ces manœuvres, ces mensonges, Dieu a accompli son plan et il nous a bénis par Jésus. Et c'est une belle bénédiction. Maudit soit quiconque te maudira et béni soit quiconque te bénira. Dieu ne veut que personne puisse nous maudire. Dieu veut nous bénir complètement. Alors c'est par la croix qu'il réussit ça. Jésus a pris notre malédiction, nos échecs, nos erreurs, nos péchés. Et puis il nous donne la réussite, il nous donne l'approbation, il nous donne l'honneur, il nous donne la justice parfaite, éternelle. Ça, il le donne de manière infinie, de manière éternelle, de manière suprême. Alors que nous ne le méritons pas, il nous le donne. Et c'est ce que les gens recherchent finalement par la méthode sensuelle, par la méthode magouille, par plein d'autres méthodes. Ce que les gens recherchent, cette bénédiction, eh bien, l'Évangile l'offre. C'est la réussite, l'approbation qui vient du Créateur de l'univers, du Dieu, qui dit, voilà, tu es une réussite à mes yeux. Tu es riche à mes yeux. Tu ne peux pas être maudit. Tu es aimé. C'est ça que nous cherchons. Et c'est ça la bonne nouvelle. C'est ça l'offre de l'évangile de la bonne nouvelle. Et quand nous l'acceptons par la foi, là, nous sommes enfin vraiment bénis. Alors, c'est Calvin, Jean Calvin, qui a repris un peu les images, l'image de cette histoire, pour nous aider à comprendre même la foi. Il dit, sans dire que c'était l'enseignement principal de ce passage, mais il dit, c'est un peu comme lorsque nous croyons en Jésus, c'est un peu lorsque Jacob s'est déguisé comme son frère aîné et son père l'a béni. Nous avons l'occasion de nous revêtir de Jésus-Christ, notre frère aîné. Mais cette fois-ci, c'est sans magouille, il n'y a pas un père aveugle qui se trompe. Cette fois-ci, c'est en pleine lumière, en pleine vérité, comme nous avons chanté ce matin. Nous venons à Dieu en pleine lumière, en pleine vérité, revêtus de Christ, avec sa perfection, avec sa justice, avec tout le désir que Dieu veut pour bénir Christ, eh bien, nous sommes cachés en lui, nous sommes en Christ, et donc, nous sommes bénis, nous pouvons être bénis. Et une fois que Dieu prononce sa bénédiction sur nous, personne ne peut changer ça. C'est ça qui est fort dans notre passage. Une fois que c'était prononcé, il ne pouvait plus revenir, puisque c'était la bénédiction, c'était une bénédiction prophétisée, c'était toute la voix de Dieu derrière. Et lorsque Dieu dit, t'es béni, je te bénis en Christ, tu es une réussite, eh bien ça, personne ne peut changer. Et nous vivons dans cette sécurité et cette joie-là.